Bonjour à tous, je suis Thibaut Fourcade et vous écoutez Un Bon Ingé, un podcast pour découvrir ensemble ce que veut dire être ingénieur aujourd'hui. Et pour cet épisode un peu spécial, puisque je suis à Abu Dhabi, je reçois Olivier de l'Autorité Fédérale de Régulation Nucléaire. Bonsoir Olivier.
Salut Thibaut.
Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir d'être reçu comme ça en tant qu'expatrié temporaire par un autre expatrié.
Merci de m'avoir contacté, c'est un plaisir.
Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, de nous parler un peu de ton métier actuel.
Bien écoute, je m'appelle Olivier, j'ai 44 ans, je suis Gazar, Chalon 98 et je travaille aux Émirats depuis 2014. Je travaille donc pour l'Autorité fédérale de régulation nucléaire. En fait, j'ai été recruté pour monter le premier laboratoire d'étalonnage des rayonnements.
D'accord.
Ici aux Émirats. Voilà, c'est pas le premier de la région, parce qu'il y en a déjà notamment en Arabie Saoudite,
d'accord,
et en Jordanie, mais c'est le premier du pays, et en fait c'est dans le cadre de l'initiative du gouvernement des Émirats Arabes Unis de démarrer une industrie nucléaire.
D'accord.
La centrale de Baraka est en train de démarrer, la décision a été prise par le gouvernement en 2008 de démarrer ce projet. Et 13 ans plus tard, donc il y a une centrale à 4 tranches qui pratiquement fini de construire et la première tranche est maintenant en opération commerciale et fournit l'électricité au réseau.
D'accord.
Donc le tout en 13 ans. Et entre-temps, il y a évidemment la centrale à construire, mais aussi toute une infrastructure autour, dont ce laboratoire d'étalonnage qui permet de fournir une solution au niveau du pays pour étalonner des appareils de détection de rayonnement ionisant,
oui,
donc des radiomètres, des dosimètres, et ce qui permet d'évaluer correctement l'exposition au rayonnement des personnes qui travaillent, alors pas uniquement dans la centrale nucléaire, mais aussi en hôpital, là où il y a les services de radio, ou dans les industries qui utilisent des sources des sources radioactives.
Donc c'est une autorité comme celle qu'on retrouve en France, finalement.
C'est très comparable, effectivement, à l'autorité de sûreté nucléaire française, sauf que Fenner a cette partie d'activité technique, et en fait, on a deux laboratoires, donc le laboratoire d'étalonnage que je dirige, et également un laboratoire d'analyse environnementale.
D'accord.
Donc qui est chargé de faire des prélèvements de sols, de végétaux, de fruits, etc., et de mesurer l'éventuelle présence d'éléments radioactifs à l'intérieur, qui peuvent être présents de manière naturelle,
oui,
parce que des éléments radioactifs, il y en a partout dans la nature, mais aussi qui peuvent détecter, pour une raison ou pour une autre, d'éventuels éléments artificiels.
D'accord. Dans un premier temps, tu as été recruté pour tes compétences techniques, pour réaliser un travail, ou plus pour manager le projet et pour monter les process?
Un peu des deux en fait. Moi, j'ai été contacté par un chasseur de tête.
D'accord.
Ça a commencé en 2013. Et le processus de recrutement a pris à peu près un petit peu moins d'un an.
Oui.
Et c'est un chasseur de tête donc, qui a vu mon profil sur LinkedIn et qui m'a contacté, qui ne m'a pas donné beaucoup de détails. Il m'a dit un poste au Moyen-Orient pour monter un labo de dosimétrie. Est-ce que vous voulez postuler? Bah, oui, pourquoi pas. J'ai eu un dossier à monter, un entretien que j'ai passé par téléphone, et puis j'ai été sélectionné.
D'accord.
Et donc j'ai commencé en février 2014.
D'accord.
C'était un aspect managérial, évidemment, parce, oui, qu'il s'agissait de diriger une équipe, mais aussi un aspect technique qui était indéniable. Et ils ont vu que pendant 8 ans, j'ai travaillé au ministère de la Défense, puis 2 ans chez EDF.
D'accord.
Donc, j'ai cumulé donc 10 ans d'expérience dans le domaine de la radio pro, de la mesure des rayonnements, métrologie et dosimétrie. Donc c'est un profil qui les intéressait.
Oui, bien sûr.
Voilà, et un profil qu'on ne trouve pas si fréquemment que ça.
Oui, j'imagine. Dans ton équipe, ce sont des expatriés également, ou il y a des ingénieurs locaux? D'ailleurs, est-ce que c'est des ingénieurs? Quels sont les profils un peu que tu as?
Alors, on est une petite équipe, au total, on est 4 personnes. Et quand je suis arrivé, donc il y avait un ingénieur danois.
D'accord.
Et une émiratie qui avait également un poste d'ingénieur.
Mmh.
Et puis, à peu près un an après mon arrivée, on a recruté, alors c'était également une jeune Émiratie, fraîchement sortie de l'université, qu'on a recruté au niveau, on va dire, technicien supérieur, enfin, équivalent Bac plus 3, licence.
Okay.
Donc au total, on a constitué cette équipe donc, de deux femmes Émiraties plus un homme danois.
D'accord.
Et qui et maintenant, en fait, on est toujours quatre.
Ouais.
L'ingénieur danois est parti en 2018 et un autre Émirati est venu rejoindre l'équipe récemment. Donc il y a trois Émiratis plus un Français. Donc,
d'accord.
Voilà.
Et alors l'autorité fédérale de régulation nucléaire, donc vous êtes combien en tout
Maintenant, on est autour des 250.
Ah oui, c'est conséquent.
Quand j'y suis arrivé, on était autour de 150. C'est une organisation qui s'est beaucoup développée parce que bah justement, avec la montée en puissance, notamment de la centrale nucléaire de Baraka, bah, y avait beaucoup de besoins qui apparaissaient. Notre Finner donc, était en charge de délivrer l'autorisation pour construire le site, puis pour procéder aux essais et finalement opérer la tranche. Donc à chaque fois, il fallait délivrer des licences. Donc faire des inspections, faire une revue complète du dossier de demande de licence par l'exploitant qui s'appelle NAWA.
Oui.
Et donc bah, ça demande, alors c'est un dossier qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 15 000 pages.
Oui.
Donc, qui demande beaucoup de monde et beaucoup de compétences. Donc même si c'est une entité du gouvernement fédéral, c'est une organisation qui regroupe de très nombreuses nationalités, beaucoup de monde. Alors, beaucoup de Coréens, parce que c'est une entreprise coréenne qui a été chargée de la construction.
D'accord.
Qui s'appelle KEPCO. Mais aussi beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains, de Canadiens, beaucoup également de spécialistes venant des autres pays arabes.
D'accord.
Égypte et Jordanie notamment. Et voilà. Un environnement très multiculturel,
ouais.
pour un projet global dirigé par le gouvernement des Émirats.
D'accord. Je trouve que c'est assez contre-intuitif quand même pour un sujet aussi sensible de faire appel à autant de nationalités. Au final, j'imagine que vous devez tous probablement avoir des agréments ou un certain nombre de choses dont vous n'avez pas le droit de parler, ou ils ont certainement fait probablement des recherches comme on peut avoir des niveaux de diffusion confidentiel ou secret, voire spécial France, au ministère des Armées par exemple. Comment ça s'est passé par rapport à ça ?
Alors il faut savoir que pendant mon recrutement, donc après avoir passé mon entretien, ils ont fait une enquête, ce qu'ils appellent security check.
D'accord.
Vraiment une enquête de sécurité me concernant. Je n'ai eu vent de rien, mais ça a duré 2 mois.
C'est généralement mieux si on n'a vent de rien.
Oui, oui, si on ne pose pas de questions, oui. C'est que c'est bon. Mais bon, je suis habitué à ça, vu que j'ai passé 8 ans au ministère des Armées.
Oui.
Je sais de quoi il s'agit. Mais voilà, bon, ça a été un processus quand même sur lequel je pense qu'ils ont été assez rigoureux. Et à la fin, donc, j'ai été approuvé au niveau sécurité. Et puis, ben, quand on signe le contrat, forcément, après, c'est quelque chose de très classique. Ça va être un accord de confidentialité. Et puis, un devoir de réserve qu'on s'impose tous en tant que professionnels. Voilà, on ne va pas parler à gauche, à droite de ce qu'on fait. On ne va pas donner des informations que le public n'a pas besoin de savoir. Voilà, ça n'empêche pas l'autorité de faire preuve d'une certaine transparence dans ce qui se passe.
D'accord.
La transparence est vraiment un des piliers de l'organisation. Et comme c'est le cas en France d'ailleurs, hein, l'autorité de sûreté nucléaire en France impose une transparence à l'exploitant. Et ici, on est quand même dans cette tendance aussi. Donc, même si c'est un domaine sensible, c'est un domaine aussi dans lequel le public a le droit d'être informé.
Oui.
Parce que en cas d'ennui, ben voilà,
bien sûr.
Les conséquences peuvent être lourdes. Donc c'est pour ça que il y a aussi, enfin, à l'autorité, il y a tout un département qui est chargé justement de la communication et de l'information.
D'accord.
Auprès du public. Voilà, donc il y a un vrai travail là-dessus. On n'est pas dans une culture du secret. Voilà, c'est vraiment une réserve professionnelle très classique qui s'impose à nous.
C'est peut-être presque rassurant finalement pour le public de savoir que la population est hétérogène et qu'il n'y aura pas de secret d'État.
Oui, bien sûr. Et puis au-delà de ça, enfin, je veux dire, on n'est pas dans le domaine militaire. On reste. Et justement, la législation a été construite de telle sorte que le nucléaire est strictement civil. Il est interdit, par exemple, de procéder à de l'enrichissement de combustible.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est un exemple parmi d'autres.
Bien sûr.
Le livre blanc qui a été signé en 2018, c'est pour un usage pacifique de l'énergie nucléaire. Il n'y a absolument pas de visée militaire là-dedans. Le tout est, on va dire, sous la surveillance, mais aussi avec un appui technique bienveillant qui nous apporte de la part de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un organisme de l'ONU basé à Vienne et qui a beaucoup soutenu les Émirats dans ce projet d'installation de l'industrie nucléaire ici dans le pays.
D'accord. Et pour rester sur ce sujet des expatriés, comment vous êtes perçu des Émiratis ?
C'est eux qui nous recrutent, donc j'ai envie de dire, on se sent bien accueillis, on est les bienvenus. Il faut savoir que les Émirats ici ont une politique d'immigration qui est basée sur le travail. Pour passer la frontière, soit tu es touriste, soit tu as un contrat de travail.
D'accord.
Voilà. Donc généralement, quand ils recrutent un expat, il y a ici une vraie culture de l'hospitalité.
D'accord, oui.
C'est très marquant. Et oui, on se sent vraiment bien accueilli. On est dans un cadre qui est très sûr. La sécurité ici est excellente. Après, tu as pu le voir comme tu es ici, tu es sur place. Tu vois que les infrastructures sont très bonnes. C'est très propre. Donc, on se sent bien accueilli et on sent que on a toute notre place, on a notre rôle à jouer ici pour contribuer au développement du pays. Il faut savoir que quand ils ont lancé ce projet, notamment ce projet nucléaire, c'est comme quand ils venaient de découvrir le pétrole. Ils n'avaient pas de compétences sur place.
Bien sûr.
Et donc, ils ont fait appel à des compétences de la part d'autres pays. Après, nous, en tant qu'expatriés, on a un rôle qui est double, c'est à la fois de venir apporter notre compétence, notre expertise et de la mettre en œuvre, mais aussi de transmettre auprès des jeunes Émiratis. Il y a des universités qui ont mis en place des programmes de formation dédiés et notre rôle c'est vraiment de former les jeunes pour qu'à un moment donné ce soit eux qui prennent la barre et qui pilotent leur propre industrie et ils auront vocation évidemment à faire ça à un moment donné.
Bien sûr.
Voilà, donc là-dessus, ils comptent sur nous, et puis nous, on est là, on les soutient évidemment dans cette démarche.
Bien sûr. Est-ce que le Covid a eu des conséquences sur votre activité ?
Fatalement, il y a eu des conséquences. Il faut savoir qu'on n'a pas eu de confinement strict, comme vous avez pu connaître en France.
Oui.
Par contre, il y avait un couvre-feu à partir de... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était à partir de 20h. Là, on était obligatoirement chez nous. Parce qu'ils faisaient, ce qu'on appelle une opération de désinfection, nettoyer toutes les infrastructures, etc. Mais bon, c'était un couvre-feu strict jusqu'à 6h du matin. Après la journée, on pouvait sortir. Mais simplement, nous, au niveau de l'autorité, tout le monde était en télétravail. Il n'y avait plus personne dans les bureaux. D'ailleurs, ça m'était arrivé. Les locaux, en fait, c'est un grand open space sur 3 étages. Une fois, j'y étais allé. J'avais besoin de récupérer des affaires et voir cet open space, les lumières éteintes, complètement vides, c'était extrêmement bizarre.
Ouais.
Voilà. Mais au-delà de ça, après, au niveau proprement parlé, à proprement parler du labo, les services d'étalonnage qu'on fournit, on ne peut pas les faire à distance.
Bien sûr.
On doit recevoir le client avec son appareil qu'on doit étalonner dans nos locaux. Donc, on a mis en place, alors ça a commencé en mars et ça a fini vers juillet 2020. Donc pendant grosso modo 4-5 mois, on était en mode dégradé, c'est-à-dire on prenait en charge que les demandes urgentes. Pour éviter à des clients d'être en dehors des clous au niveau réglementaire, etc. Et on leur envoyait une communication assez stricte en disant portez un masque, déposez votre appareil et repartez, et puis on vous contacte quand c'est prêt. Et nous, on était maximum 2 dans le labo c'était distanciation physique, etc. Utilisation de gel hydroalcoolique autant que possible. Donc ça a été toute une série de mesures qui ont été mises en place. À un moment où on avait beaucoup de doutes sur la dangerosité ou pas de ce virus, la contagiosité ou pas de ce virus, on avait très peu de connaissances. Et donc, on était, ben, comme tout le monde, hein, vraiment dans l'expectative. Malgré tout, on a maintenu le laboratoire opérationnel. Tout ce qui pouvait se faire à distance au niveau de l'autorité a été fait à distance. Mmh. Après, il y avait des activités comme chez nous, ou des activités d'inspection qui, malgré tout, ont été conduites, mais vraiment là aussi pour les cas les plus urgents. Mmh. Après, tout ce qui pouvait être reporté a été reporté. Et puis, ça a amené finalement aussi l'autorité à mettre en place des processus, à les développer fortement pour que tout se passe vraiment à distance.
Oui.
Je m'explique. Par exemple, pour les activités d'inspection, normalement, on doit aller sur place et voir si tout est conforme à un référentiel réglementaire. Il y a eu un processus d'inspection à distance.
D'accord.
Voilà, donc avec vraiment quelqu'un sur place, et l'inspecteur lui-même était chez lui en sécurité, et donc l'inspection se passait comme ça. Il y a eu des pratiques un peu innovantes qui ont été mises en place. Donc ça, c'est une des conséquences, on va dire, positives de cette crise. Et globalement, on a quand même maintenu nos activités. On n'a pas été à l'arrêt total. Non. Ça a été... De toute façon, un des impératifs, c'était de maintenir une continuité dans nos activités vis-à-vis des gens qu'on inspecte ou des gens à qui on fournit des services.
Et vous êtes revenu à quelle capacité à peu près? Vous avez retrouvé globalement une activité?
Là, on est à 100%.
100%, d'accord.
Ouais, là, on est tous... plus personne n'est en télétravail, alors, à part quelques exceptions.
D'accord.
Très rares exceptions, mais là on est en activité nominale, on va dire. Bien sûr, la plupart on est vaccinés. On a été vaccinés très tôt. Ça a permis aussi justement d'éviter la propagation excessive du virus. Alors bien sûr, quand on est sur place, on continue à porter le masque, à faire attention.
Le gel, etc.
Le gel, la distanciation physique, etc. Voilà, les mesures maintenant auxquelles nous sommes tous habitués.
Bien sûr.
On continue à les suivre.
Très bien. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière et que tu nous parles de ton premier job, dans quoi c'était, et puis que tu nous parles un peu à ta sortie d'école, dans quoi tu as voulu t'orienter, et si ça a été limpide pour toi ou si t'as tonné dans un premier temps.
Ça n'a pas du tout été limpide.
D'accord.
Absolument pas. Non, ça a été, alors je ne sais pas, d'aucuns appellent ça le hasard, d'autres le destin, je ne sais pas trop. Après mon diplôme, en fait, c'est là où j'ai commencé vraiment à chercher. C'était une époque, 2002-2003, où le contexte n'était pas forcément très favorable. C'était assez dur pour les jeunes diplômés de trouver quelque chose. Et j'ai mis pas mal de temps. Et alors je m'étais installé, j'ai de la famille au Mans, je m'étais installé au Mans pour être près de Paris.
D'accord.
Parce que mon intention était de travailler en région parisienne. Donc même pas une heure de TGV, on pouvait accéder à Paris. Donc c'était pratique. Et pendant ma recherche, je ne me suis pas tourné les pouces non plus. J'ai donné des cours, des cours de soutien, des cours particuliers à des élèves de collège et de lycée en maths, en physique, en chimie. Donc ça me permettait aussi de maintenir une certaine activité intellectuelle.
Bien sûr.
Et puis mon frère, à l'époque, qui était dans la Marine nationale, m'a envoyé un message disant il y a le ministère de la Défense qui organise un concours de recrutement d'ingénieurs. Fonctionnaire, catégorie. Donc voici la documentation. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire. Je me suis inscrit. Et donc il y avait différentes spécialités. Moi, j'ai choisi la spécialité mesures physiques.
D'accord.
Ce qui était cohérent avec le BTS que j'avais passé dans le domaine de la mesure physique. Puis même aux arts, on continue à faire ça. Donc il y avait un poste d'ingénieur pour tout le ministère de la Défense dans ce domaine-là. On était une cinquantaine de candidats et je me suis retrouvé à être sélectionné. Donc, après,
super.
Un processus très classique, épreuve écrite, d'admissibilité, puis après l'oral d'admission. Et ce poste était au sein du service de protection radiologique des armées,
d'accord.
Le SPRA, qui se situe au sein de l'hôpital Percy à Clamart. Donc bingo, j'étais en région parisienne, j'étais content. Et puis, je me rappelle encore du jour où j'allais avoir celui qui allait devenir mon supérieur hiérarchique et qui me disait, quelques jours ou quelques semaines avant que je débute, vous allez travailler dans la dosimétrie. Première fois que j'entendais ce mot.
Qu'est-ce que c'est?
Bon, j'ai OK. Mais écoutez, pas de problème, on se voit. Alors, j'ai commencé le 2 février 2004, donc au SPRA. Et alors, au-delà de ça, pour parler un peu plus simplement et pas trop entrer dans les détails techniques, C'est là où j'ai commencé à travailler dans la radioprotection. La radioprotection, c'est l'ensemble des moyens humains, matériels et également législatifs pour limiter les effets indésirables des rayonnements ionisants envers les gens, envers l'environnement, les limiter à un niveau acceptable.
Ouais.
Et donc, c'est par le biais de ce concours d'entrée où j'ai commencé finalement, et c'était, j'avais pas le choix, c'était un poste.
Ouais.
Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler dans un domaine qui s'est avéré être passionnant pour moi d'un point de vue technique, qui est le domaine de la radioprotection, de la mesure des rayonnements, la métrologie des rayonnements. C'est très, vraiment, d'un point de vue scientifique, intellectuel, j'ai trouvé ça, j'ai très vite accroché, j'ai trouvé ça vraiment très passionnant.
Et c'était sous quel statut ?
Alors, c'était le statut fonctionnaire catégorie A, ingénieur d'études et de fabrication. Donc, donc j'ai travaillé pendant 8 ans au SPRA. Et puis, très content des conditions de travail. Je travaillais avec tout plein d'interlocuteurs différents, de la marine, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la DGA, etc. Mais à un moment donné, dans ma progression de carrière, je me suis retrouvé face à un plafond de... en dessous d'un plafond de verre, en fait. Il y a eu cet effet plafond de verre où, au sein du service de santé des armées,
auquel
est compris le SPRA, tous les postes hiérarchiques au-dessus de moi étaient occupés soit par des médecins militaires, soit par des pharmaciens militaires. Je me disais, je ne vais pas tenir 20 ans ou 30 ans à ce même poste. Je me suis dit, il faut que je bouge de là. Alors, ça aurait pu être au sein du ministère des Armées.
Bien sûr.
Mais j'ai également eu cette opportunité de postuler pour EDF.
D'accord.
Opérateur nucléaire, donc principal opérateur nucléaire dans le monde. Donc j'ai répondu à une annonce et pareil, pour passer le processus de sélection. Apparemment, ils ont aimé mon profil puisqu'ils m'ont recruté.
Effectivement.
Début janvier 2012, j'ai commencé chez EDF à Cap-Ampère, à Saint-Denis. Donc dans une unité en fait, d'ingénierie qui était en soutien de l'ensemble des centrales nucléaires en France. J'étais chargé alors, à la fois de collecter l'ensemble des données dosimétriques des agents EDF et des sous-traitants intervenant sur centrale, soit pendant l'opération ou pendant les arrêts de tranche et les opérations de maintenance. Et également, j'ai participé là aussi à un autre exercice intellectuel très intéressant. Je faisais partie du comité au sein de l'AFNOR qui était chargé de mettre à jour des normes de radioprotection, des normes ISO.
D'accord.
Et donc on était quelques experts donc détachés par les différents principaux acteurs du nucléaire en France, donc l'IRSN, EDF, ministère des Armées, Areva, etc. Enfin maintenant Orano. Donc voilà, c'était des groupes de travail, on réfléchissait là, vraiment c'était une approche purement scientifique sur comment définir un bon système, par exemple un bon système pour mesurer, par exemple des rayonnements neutroniques.
Oui.
Quelles exigences doit-on définir en termes de performance pour avoir un système satisfaisant qui puisse à la fin atteindre les objectifs qu'on se fixe lorsqu'on fait de telles mesures. Donc ça a été vraiment un exercice intellectuel également très intéressant. Et puis c'est là où justement, comme je te disais, en 2013, j'ai été contacté pour travailler ici aux Émirats.
D'accord. Alors tu me parlais justement de ce plafond de verre là, qui t'avait poussé à changer. Est-ce que tu as connu d'autres points durs qui t'ont conduit à des changements, pas forcément de poste, mais qui t'ont conduit à des remises en question et des choses qui ont vraiment jalonné ta carrière?
Je ne sais pas si on peut parler de points durs, mais en tout cas, ce qui a conduit à un vrai changement chez moi, et également aussi bien dans ma manière d'être que dans mon comportement au sein de Fender, ça a été le fait de se retrouver dans un milieu très très multiculturel, dans un pays où la culture est extrêmement différente de ce qu'on peut trouver en France. On en parlera certainement, mais en tout cas, ça a été un vrai changement. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est un pays qui m'accueille, c'est à moi de m'adapter au pays. C'est pas le pays qui va s'adapter à moi.
Bien sûr.
On est ici dans le Moyen-Orient, mais c'est un cheminement, je suis sûr, par lequel on passe, même si on s'expatrie dans un pays proche de la France. Même si on va en Belgique, en Espagne, en Luxembourg, en Angleterre, il y aura malgré tout, même si les différences ne sont pas nombreuses, elles existent quand même.
Oui.
Et donc là, pour le coup, on est dans le Golfe, les différences sont nombreuses et très marquées. que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau des mœurs, au niveau des coutumes, au niveau des tenues. Enfin voilà, les hommes et les femmes locales ici ont des tenues qu'on ne verra jamais en France.
Bien sûr.
Donc voilà, et tout ça, bon, ben, on est dans un nouvel environnement qu'on doit respecter, qu'on doit, et dans lequel on doit s'intégrer.
Oui. Voilà.
Donc, et ça, après, au niveau professionnel, ça m'a amené, alors, point de vue technique, ça n'a pas changé grand-chose, mais dans ma manière de manager une équipe, où il y avait zéro français, où 100% de la communication se faisait forcément en anglais, donc là-dessus, ça a été, en tout cas... Il y a eu une période d'adaptation. Ça s'est bien passé, mais voilà. Ça a été un vrai changement d'habitude, en tout cas.
Alors, tu disais justement que vous étiez plutôt bien accueillis sur le plan professionnel et qu'aujourd'hui, tu as que des Émiratis, finalement, avec toi dans ton groupe. Sur le plan personnel, est-ce que vous êtes, en tant qu'expatrié, tout aussi bien accueillis ? Est-ce qu'ils sont accessibles ? Ou c'est quand même compliqué de rentrer dans leur univers, finalement ?
Les Émiriens et les Émiriennes sont des gens avec qui il est très agréable de discuter, très agréable d'interagir. Pour autant, ce ne sont pas des... Et ça, c'est dans la culture. Vraiment, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Ce ne sont pas des gens qui, par exemple, vont t'inviter chez toi à un apéritif, un barbecue ou que sais-je. Comme ça peut se faire en France. Hein. Oui. En France, viens déjeuner ce week-end à la maison, il n'y a pas de problème, machin. Non, ici, ça ne fait pas.
D'accord.
Si on doit se voir, ça va être dans un resto à l'extérieur, dans un café, peu importe. Mais en fait, ici, les gens du golf, en général, tiennent énormément à leur vie privée. Et
d'accord.
Leur maison, c'est vraiment un espace sacré, dans lequel, enfin sacré entre guillemets, mais en tout cas un espace qu'ils prennent bien soin de préserver entre guillemets, du monde extérieur. Même au niveau de l'architecture, tu vas remarquer qu'une villa ou une résidence, ça va être très dur de voir ce qui se passe à l'intérieur, voire même impossible. Donc l'architecture a été conçue dans ce sens-là. Être invité chez un Émirien, ça fait 7 ans et demi que je suis là, ça ne m'est jamais arrivé.
D'accord.
Pourtant, je connais, j'ai d'excellentes relations avec les Émiriens. Ça m'arrive fréquemment de les voir à l'extérieur, même pour des événements, que ce soit au niveau du travail, et ça nous est arrivé de nous retrouver... à dîner ensemble, dans un restaurant, peu importe. Mais voilà, dans un cadre strictement privé, non.
Oui.
Ça se fait pas. Mais encore une fois, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus.
Bien sûr.
C'est à nous de nous adapter.
Et entre eux, ils observent les mêmes règles aussi ou...
Je dirais pas que les règles sont observées de la même manière.
Oui.
Mais voilà, après, bon, ce sont des habitudes que... Personnellement, je ne connais pas, je ne connais pas dans les détails, mais encore une fois, ça n'empêche pas le fait que nous, on se sent bien accueillis, même
bien
en
sûr.
Général. Hein, encore une fois, tout est mis en œuvre pour qu'ici, on ait un cadre de vie qui soit agréable. Comme je disais tout à l'heure, la sécurité ici est excellente.
Oui.
Il y a un classement qui montre que c'est à Abu Dhabi que le taux de criminalité est le plus bas dans le monde.
D'accord.
Donc, ça ne me surprend pas. Hein. On peut laisser notre voiture, les clés sur le contact. Personne ne viendra te la voler. Ça, c'est clair. Et moi qui ai deux filles en bas âge, ça n'a pas de prix. Quoi. Justement, la tranquillité d'esprit, d'être dans un environnement aussi sûr, c'est génial.
Oui, j'imagine. Alors, je vais te poser une question qui est la question phare du podcast. C'est selon toi, qu'est-ce qu'un bon ingénieur ?
Grande question. Souvent, les ingénieurs, en fait, ils occupent des postes où il y a à la fois un aspect, on va dire, managérial, pour être un peu trivial, et un aspect technique. Souvent, tu as le pur manager qui n'aura aucune compétence technique, aucune connaissance, mais qui saura bien gérer une équipe ou bien interagir avec ses collègues, résoudre des conflits ou faire en sorte que tout le monde soit satisfait, etc.
Oui.
De l'autre côté, tu as celui qui techniquement va être très fort, mais qui aura tendance à travailler en solo et vraiment limiter ses interactions avec les autres au minimum. L'ingénieur, c'est un peu une synthèse des deux. C'est à la fois, on a des compétences techniques à mettre en œuvre, et puis on a dans la plupart des cas, c'est des équipes à gérer. Donc, comme je disais, s'il y a des conflits qui apparaissent, il faut qu'on soit là pour les résoudre. Et puis faire en sorte que il n'y ait pas de frustration, que tout le monde soit content, etc. Donc un aspect humain qui reste très fort, un aspect technique qu'évidemment on va continuer à mettre en œuvre et qu'on ne peut pas ignorer. Donc pour moi, un bon ingénieur, c'est celui qui... C'est une bonne combinaison des deux, quoi.
Ouais, voilà. Bien sûr. Donc, au regard de ça et de ton déroulé de carrière, si tu pouvais te donner un conseil à ton toi sorti d'école, justement, qu'est-ce que ça serait ?
Je dirais que c'est un conseil que, quelque part, j'ai suivi. Ça fait, j'ai maintenant 17 ans d'expérience. Je dirais que c'est savoir repérer et saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Voilà, c'est, si je ne m'étais pas inscrit à ce concours pour rentrer au ministère des Armées, à l'époque ministère de la Défense, ma carrière aurait été complètement différente. Et voilà, c'est ma carrière et puis ma vie en général. Par certains moments, je la vois justement comme une succession d'opportunités que j'ai pu saisir, soit par moi-même, soit avec l'aide d'autres personnes. Ça a été un moment mon frère, puis mon épouse... voilà, je pense qu'il faut toujours garder les yeux et les oreilles grandes ouvertes et se dire, tiens, là, c'est intéressant et ça peut mener à quelque chose de bien.
Peut-être ne pas avoir peur d'oser aussi, c'est souvent lié.
Oui, tout à fait, ne pas avoir peur de l'échec également. Ça, c'est souvent l'échec et la peur de l'échec paralyse beaucoup. Et au contraire, je pense qu'avant de réussir, il faut échouer.
Bien sûr.
C'est un autre conseil que j'aurais également donné au mois sorti d'école.
Ok, super. Dernière question de notre entretien. Est-ce que tu aurais un livre ou une œuvre à recommander ? Quelque chose qui a pu te marquer aussi bien professionnellement que personnellement ?
Alors c'est un peu des deux en fait. C'est un livre qui a été écrit par Étienne Klein.
D'accord.
Qui est un physicien qui travaille au CEA et qui est également philosophe des sciences. Qui également anime une émission qui s'appelle Conversation scientifique sur France Culture et qui est pour moi un intellectuel dans le sens noble du terme, qui a sorti en juillet 2020 un livre qui s'appelle Le goût du vrai. C'est un livre très court qui a été édité par les Tracts Gallimard.
D'accord.
Qui parle en fait, qui met le doigt sur finalement, durant toute cette pandémie, il y a eu cette fâcheuse tendance à diffuser des fausses informations, des théories du complot, des rumeurs. En fait, Étienne Klein met très bien le doigt sur l'origine de tout ce qu'on appelle ces fake news ou ces faits alternatifs auxquels on est confronté sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information continue.
Bien sûr.
Et il explique ça, en fait, il y a quatre grandes raisons à cela. Et quand on pose un diagnostic, après, c'est plus simple de trouver un traitement. Les quatre grandes raisons, c'est à la fois, on veut croire à des choses qui nous plaisent et on rejette des informations qui nous déplaisent. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on trouve beaucoup de climato-sceptiques. Parce que le changement climatique, effectivement, on voit ça comme... C'est quelque chose de très... La perspective est quand même très sombre. Et du coup, le mouvement climato-sceptique est très fort parce que, justement, il y a une espèce de rejet, même si scientifiquement, c'est très étayé. Oui. Malgré tout, il y a un mouvement qui nie le réchauffement climatique parce que, tout simplement, cette idée ne leur plaît pas.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, c'est ce qu'on appelle l'effet gourou, où on peut avoir un savant qui dit il y a tel médicament qui va très bien marcher contre telle maladie. Et telle maladie qui est toute nouvelle. Je vais pas nommer le médicament, je vais pas nommer la maladie, mais tu vois de quoi je parle.
Oui, bien sûr.
Et donc quelqu'un qui va entendre ça, qui dit tiens, cet homme-là, il est très très qualifié, très expérimenté, machin. Bon, ok, je vais le croire et puis je vais le soutenir à tout prix. Voilà. Et parce que il a trouvé un traitement miracle et c'est super et c'est la fin des problèmes, c'est la fin de partie, comme il appelait ça. C'est ce qu'on a fait l'effet gourou. C'est vraiment, même en dépit du bon sens, on va soutenir une thèse qui s'avère être fausse. Un gourou peut dire n'importe quoi et si tu es sous l'influence de gourou, tu vas faire le maximum pour relayer ces thèses fallacieuses. Troisième effet, c'est un terme un peu barbare qui s'appelle l'ultra-crépidarianisme.
D'accord.
Qui a été très bien expliqué par Étienne Klein, justement, dans ce livre. En fait, ça vient de locution latine qui veut dire le cordonnier ne pas aller plus loin que sa chaussure.
D'accord.
Et en fait, l'ultra-crépidarianisme, ça consiste à reconnaître son incompétence dans un domaine, qui est souvent un domaine éminemment complexe, et pour autant donner son avis.
Oui.
Et dire, par exemple, tel médicament, ce médicament, il marche. C'était la réponse à une question auquel personne n'avait la réponse à ce moment-là.
Bien sûr.
Étienne Klein évoque un sondage qui était paru début avril 2020 dans Le Parisien. La question, c'était, est-ce que pour vous, l'hydroxychloroquine est efficace? 59% ont répondu oui, 20% ont répondu non. Seulement 21% ont répondu je ne sais pas. 79% de la population, l'échantillon monsieur et madame tout le monde hein, qui a été interrogé, se sont retrouvés à donner la réponse à une question que les plus éminents experts,
oui.
à laquelle ils ne savaient pas encore répondre.
Oui. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est encore,
ça, encore, c'est encore aujourd'hui, effectivement, ça fait débat. Mais voilà, il y avait très vite des gens qui étaient très sûrs. Ils ne sont pas compétents dans la matière. Et pourtant, ces fameuses réflexions, je ne suis pas médecin, mais je pense que voilà, tel médicament est, est efficace. Donc, on n'est pas compétent, mais on donne quand même notre avis. Alors, je pense que nous tous, on tombe dans ce biais, mais à certains degrés divers. Et le dernier biais, le quatrième et dernier biais, c'est une confiance trop forte à notre intuition ou à ce qu'on appelle parfois de manière un peu abusive le bon sens. On estime que telle ou telle chose est vraie parce qu'on a l'intuition que... L'année dernière, quand il y avait Trump qui disait ben, « l'hydroxychloroquine, moi j'en prends parce que j'ai l'intuition que ça marche », ben, voilà, on est carrément dans ce biais et par une des personnes à l'époque qui était une des plus puissantes et plus influentes du monde. Donc, c'était particulièrement marquant dans ce moment particulier de la pandémie où ces quatre biais nous explosaient à la figure sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos continues. Vous avez des politiques qui disaient « Ouais, certes, je suis pas médecin, mais je... » Bon, voilà, qui existe. Après le mai, en général, ça n'existe pas. Donc, Étienne Klein, dans ce livre, établit un excellent diagnostic. Et après, il y a toute une... Dans le reste, le livre est court, hein, il fait une soixantaine de pages. Mais il est extrêmement intéressant, vraiment, je recommande la lecture. Et il donne les clés pour justement faire en sorte que la science, la thèse scientifique, telle qu'on la connaît, la démarche scientifique, regagne un peu ses lettres de noblesse parce qu'elle a été particulièrement battue en brèche, malheureusement, surtout depuis le début de cette pandémie.
Bien sûr. Ok. Super intéressant. Olivier, merci beaucoup.
Merci à toi.
Très intéressant comme échange. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Et je vous invite également à vous abonner pour ne rater aucun épisode d'Un Bon Ingé. Puis on se retrouve bientôt donc, pour un prochain épisode.